Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, on va aujourd'hui reprendre cette petite anthologie des littératures occitanes et catalanes. C'est un livre qui a quand même 200 pages et qui est placé sous la direction de Christiani, à l'époque recteur d'Académie de Montpellier et chancelier des universités. Il a été édité en 2006 par le CRDP de l'Académie de Montpellier, sur une maquette d'Agathe Razia-Zec. Et en quatrième de couverture, je rappelle, on nous dit que cet ouvrage présente 64 textes littéraires écrits en occitan et en catalan, du Moyen-Âge à nos jours, accompagnés de leur traduction française. Alors, bien sûr, c'est la traduction française qui nous intéresse et que je vais donner. Alors, 1000 ans de littérature sont ainsi évoqués à partir du socle commun des deux langues, les troubadours. Les littératures occitanes et catalanes sont ensuite illustrées par quelques belles pages de grands écrivains. On va les voir à la suite. Alors, la photo de couverture de Georges Souche représente un arbre de Judée dans le vignoble de Saint-Chimian. Voilà, alors la semaine dernière, on a vu, ma foi, Guillaume IX de Poitiers, qui est l'ancêtre de premier des troubadours, Geoffrey Rudel, avec son amour de loin, et puis également Bernard de Ventadour, notre voisin du Limousin. Alors, ce livre, bien sûr, il y a une présentation qui nous dit, pour réunir ces textes et rédiger les notices qui les situent dans la littérature occitane catalane, j'ai mis en place un comité scientifique composé d'universitaires et de personnalités hautement qualifiées. Je suis reconnaissant d'avoir contribué à ce travail délicat, difficile, mais qui sera si utile. J'ai chargé Claire Toreille et Marie Sanchise, chargées de mission pour l'enseignement de l'occitan et du catalan, de coordonner ce travail et d'en assurer la rédaction définitive. Elles l'ont fait avec compétence et passion, je les en remercie. Ce qu'elles font pour l'occitan et du catalan est remarquable. Voilà, donc ça, au passage, un petit coup de chapeau. À choisir d'aller les littératures occitanes et catalanes, les quelques 60 textes qui constituent cette anthologie, a été une tâche à la fois aisée et difficile. Aisée parce que les deux littératures développées pendant 10 siècles dans des espaces étendus sont d'une extrême richesse. Difficile parce que tout choix est partial et laisse de côté des œuvres égales ou de plus grande valeur. C'est vrai que c'est toujours difficile de faire un choix. Alors, ensuite, il y a Robert Laffont, donc qui a fait la préface. Voici un court extrait. Le catalan et l'occitan sont alors de grandes langues administratives et les langues de la vie sociale. Un coup est porté plus tard indirectement à la langue d'oc par François Ier qui impose par l'édit de Villers-Cotterêts le français royal à l'administration publique. Cela ne suffit pourtant pas à empêcher le nouvel élan de création poétique pour la cour de Navarre qui a écrit le grand poète protestant et humaniste Pey de Garros. À l'école des renaissants italiens et de la pléiade française, une poésie modernisée buisson vigoureusement dans les diverses formes parlées de la Provence à la Gascogne. C'est le moment baroque de l'Occitanie ultime et culmine avec le poète Godolin qui va rester célèbre jusqu'à l'époque moderne. Alors, François Ier a fait l'édit de Villers-Cotterêts pour que les textes, tout au moins, qui régissent, le royaume, soit écrit en français, parce que bien souvent, ils étaient écrits en latin, et paraît-il, ils ne comprenaient pas très bien le latin. Donc voilà, alors, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, bon, on va revoir un peu nos écrivains de l'époque. Alors, il y a l'aube. Alors, l'aube, c'est un mode, poétique, que Giraud de Berneuil mettra en pratique. Alors, voici un poème, l'aube, alors peut-être de Giraud de Berneuil. Alors, l'aube, avant tout, c'est un genre, comme je disais, de lyrique médiévale. Elle met en scène le moment qui précède à la fois le lever du jour et la séparation d'un couple qui doit fuir le jour. C'est le moment où le ciel blanchit, où l'on entend les oiseaux annoncer aux amants par le cri de la gaïta, c'est-à-dire le guetteur du château, que cette aube anonyme, et c'est la dame qui joue le rôle principal, c'est elle qui invite au jeu de l'amour et à retenir la nuit. On devine autour du couple tout un monde hostile, du Gilot, le mari évidemment, et nombreux logenciers et séides qui l'observent, la regardent et la regardent. Bien sûr, le jaloux, c'est le mari, mais bon, il a peut-être ses raisons. Alors voici donc l'aube, peut-être de Giraud de Bordeuil. Alors, dans un verger, sous la fleur d'aubépine, tenait la dame son amie auprès d'elle, jusqu'au moment où le guetteur a crié qu'il a vu l'aube. Mon Dieu, l'aube, qu'elle vient vite. Fait à Dieu que jamais la nuit ne s'acheva, ni que mon ami ne s'éloigna de moi, ni que le guetteur ne vit ni jour ni aube. Mon Dieu, l'aube, qu'elle vient vite. Cher et doux ami, embrassons-nous tous deux, en bas dans les prés où chantent les oiseaux, faisons tout cela en dépit du jaloux, c'est-à-dire le mari. Mon Dieu, que l'aube vient vite. Cher et doux ami, faisons une nouvelle partie dans le jardin où chantent les oiseaux, jusqu'à ce que le guetteur joue de son chalumeau. Mon Dieu, que l'aube vient vite. Grâce à la douce brise qui est venue de là-bas, de mon ami qui est beau, courtois et gai, j'ai bu un doux rayon de son haleine. Mon Dieu, l'aube, qu'elle vient vite. La dame est agréable et charmante à cause de sa beauté, bien des gens la regardent et elle place son cœur dans un amour loyal. Mon Dieu, l'aube, qu'elle vient vite. Voilà, alors donc c'était l'aube, que je disais peut-être chantée par Giraud de Bordeuil. Alors, il y a bien sûr les troubadours, mais il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. Et la plus connue de toutes, c'est la comtesse de Die. Ou de Die, comme vous voudrez. Voilà, alors on a peu de renseignements sur la vie de la plus célèbre des troubadouristes. Sa vie, la dit femme de Guilhem de Poitiers, alors, c'est pas le même bien sûr que Guillaume IX, c'est une belle femme et elle est amoureuse du troubadour Rimbaud d'Orange, seigneur d'Aubelas et d'Orange. On a conservé d'elle 5 pièces de la seconde moitié du XIIe siècle, dont celle-ci sur le thème de l'amour perdu. Alors ce poème s'intitule donc en français « Belle amie » et en occitan d'ailleurs à peu près pareil aussi. « Belle amie, j'ai été plongé dans le chagrin à cause d'un chevalier qui m'a servi. Et je veux qu'éternellement on sache de quel immense amour je l'ai aimé. Maintenant je vois que je suis trahi. Pour ne pas lui avoir donné mon amour, j'en ai éprouvé une grande détresse dans mon lit, aussi bien que tout habillé. Je voudrais bien tenir un soir mon chevalier nu dans mes bras, et qu'il se tienne pour bien heureux, pourvu seulement que je lui serve de coussin. Je m'en suis pris avantage que Flore et Blanchefleur. Je mets entre ses mains mon cœur et mon amour, ma raison, mes yeux et ma vie. Belle amie, aimable et bon, quand vous tiendrai-je à mon pouvoir, je voudrais être couché un soir avec vous et vous donner un baiser amoureux. Vous savez, j'aurais une grande envie de vous tenir à la place de mon mari, pourvu que vous soyez engagé à faire tout ce que je voudrais. Évidemment, il y a quand même une condition, ça c'est bien les femmes, de toute façon, pour faire tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, il y a bien sûr le plus célèbre de tous les troubadours, Bertrand de Born, le Périgourdin Bertrand de Born, qui vécut entre 1159 et 1195, alors il était seigneur d'Hautefort, en Périgord évidemment, intervint à plusieurs reprises dans les guerres d'Aquitaine et fut longtemps l'ennemi de son suzerain Richard Cœur de Lion. Et il utilisa ses servantes, c'est-à-dire le genre de poème d'actualité, pour rallier les barons aquitains contre leur très redoutable seigneur jusqu'au jour où, abandonné de tous, il n'eut plus de solution que de se soumettre à ce fils d'Aliénor d'Aquitaine. Mais à partir de là, sa fidélité lui fut totale. On connaît l'histoire, Richard partit pour la croisade. Après la prise de Jérusalem par Saladin, il fut capturé par le duc d'Autriche, qui le livra à l'empereur d'Allemagne, lequel exigea une forte rançon. Pendant ce temps, les ennemis du roi avaient tout loisir de comploter et de nuire à ses fidèles. On comprend aussi l'allégresse du seigneur Troubadour lorsqu'il apprit que le roi était rentré en Angleterre et allait rétablir l'ordre dans ses domaines continentaux. Alors je crois que l'Angleterre était gérée par Jean sans Terre, mais c'est l'époque aussi d'un personnage bien connu, c'est-à-dire Robin des Bois. Voilà. Donc si vous voyez le film Robin des Bois avec Errol Flynn par exemple, eh bien donc c'est cette époque du XIIe siècle et le retour du roi sur ses terres. Bien, alors voilà ce qu'écrit Bertrand de Born, la gracieuse saison. Voici la gracieuse saison où aborderont nos vaisseaux, où viendra le roi Richard, intrépide et valeureux comme jamais. Alors nous verrons dépenser or et argent, faire débander et détendre les catapultes, effondrer les murs, abattre et renverser les tours et enchaîner les ennemis capturés. Il ne me plaît pas du tout, tout que nos barons aient prêté je ne sais quel serment, ainsi ils en seront honteux comme le loup privolacé. Quand notre roi pourra remplir ses promesses parmi nous, chacun d'eux n'aura pas d'autre défense que de dire « Moi, on ne peut me reprocher d'avoir manqué à ma parole, mais je veux me se mettre à vous. J'aime avoir la mêlée des boucliers couverts de peintures blanches et bleues, des enseignes et des gonfarons de diverses couleurs, dresser les tentes à cordes et à poutrelles, les riches pavillons, rompre les lances, transpercer les boucliers, fendre les hommes polis et s'échanger des coups. » Voilà, c'est un poème, mais c'était surtout un batailleur. Alors, il continue ainsi, « Je n'aime pas la société des routiers, ni celle des putains vénales. Un sac de sterling et de moutons me rebute lorsqu'on les a obtenus par la fraude. Et l'on devrait pendre le chef de troupes avare et le puissant seigneur qui veut faire payer ses dons. On ne devrait pas courtiser une dame cupide qu'on peut faire plier et allonger pour de l'argent. J'aime la coutume du lion à l'égard du vaincu, s'il n'est pas cruel. Mais avec l'orgueilleux, il rivalise d'orgueil. Et le roi n'a pas de baron de ce genre-là. Au contraire, quand il le voit en difficulté, chacun d'eux s'évertue à lui nuire. Et n'allez pas croire que je compose pour de l'argent, mais on doit toujours lutter pour un puissant baron. » Alors, comment je pourrais dire, Bertrand de Borne, bon, je crois, finira sa vie à l'abbaye du Dallon. Alors, il y a bien sûr d'autres poèmes, dont un qui est la chanson des croisades albigeoises. Alors, voici rapidement ce qu'on nous dit, la chanson de la croisade albigeoise, ce vaste poème épique de 1582 vers à deux auteurs successifs, tous deux témoins des événements, le premier Guillaume de Tulède, dont le récit va de 1210 à 1213, le second est un troubadour anonyme. Son récit s'arrête au siège de Toulouse en 1219. Languedoc historique, c'est-à-dire les terres des comtes de Toulouse, est le théâtre de l'enjeu de la guerre que mène le roi de France contre les seigneurs occitans, son rattachement à la couronne et à la conclusion. Alors, c'est donc cette conclusion, mais ce sera le traité de Meaux en 1229. La croisade a été décidée par le pape Pie III contre l'hérésie cathare, dite albigeoise, le 22 juillet 1209, la ville de Béziers est assiégée et prise le même jour en quelques heures. Les bourgeois ont refusé de quitter leur ville en y laissant les hérétiques enfermés comme le demandaient leur évêque et l'abbé de Citeaux. L'abbé de Citeaux, c'était un chef des croisés. Alors c'est la troupe considérable des Alors, valets et truands qui suivent l'armée qui décide des événements. Alors voici ce qu'il nous dit donc dans ce poème Béziers 1209. Ce fut le jour de la fête de la Madeleine que l'abbé de Citeaux amène son armée et la fait camper autour de Béziers dans la plaine. J'imagine à cette vue le tourment et la peine des assiégés, car jamais l'armée conduite par Ménélas, à qui Paris enleva Hélène, ne dressa aux portes de près de Mycène autant de tentes ni autant de riches pavillons. La nuit en plein air que celle des Français, mais l'Occitanie n'était pas en France à l'époque, c'est qu'à l'exception du comte de Brienne, il n'y eut aucun baron de France qui ne s'y fit sa quarantaine. Apprenez donc ce qu'ils faisaient ces rustres, plus fous, plus niais, que des baleines, brandissant leurs pennons blancs faits de vulgaires toiles. Ils couraient vers l'armée en criant de toutes leurs voix, ils pensaient épouvantés comme des oiseaux dans un champ d'avoisins. Allez, huant à grands cris et en agitant leur banderole d'étoffe le matin au lever du jour. Les bourgeois de la ville virent arriver les croisés, le roi des ribauds les attaquer, les truands s'élancer de toutes parts dans les fossés, démolir les remparts et ouvrir les portes. Les Français de l'armée en foule s'armer, alors ils comprennent que dans leur cœur qu'ils ne tiendront pas. Ils vont se réfugier dans la cathédrale. Les prêtres et les clercs revêtirent leur ornement sacré et firent sonner des cloches comme s'ils allaient célébrer la messe des morts pour enterrer un défunt. À la fin, les Mitterrois ne purent empêcher les truands d'entrer et de s'emparer de leur maison comme ils voulurent, car ils auraient pu en choisir chacun 10 pour leur bon plaisir. Voilà. Donc je vais arrêter là, c'était Béziers 1209, donc le rattachement ensuite de la Provence, enfin des États du Sud, à la couronne de France. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, bien ensoleillée, n'oubliez pas les chapeaux et les ombrelles. Voilà, au revoir et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.